Mesdames, messieurs, bonjour et merci à vous d'être là à l'écoute de CFM Radio. C'est Jacques pour le magazine du Tarn. Au programme aujourd'hui de rendez-vous culturels qui font vibrer le nord du département en ce mois d'août, nous prendrons tout d'abord la direction de Cordes-sur-Ciel ou l'Antre du Dragon, un nouveau lieu tout en haut de la cité médiévale dédiée à l'art et l'artisanat, accueille jusqu'au 30 août notamment une exposition consacrée à Jean-Gabriel Jaunin, peintre amoureux de l'imaginaire, proche de Salvador Dali, mais aussi ancien adjoint à la culture de la cité médiévale. Il a marqué, il faut le dire, de son empreinte la vie artistique cordaise. Son fils Raphaël Jaunin nous ouvre les portes de cet univers singulier. Puis nous rejoindrons Vahour, où le festival d'été de Vahour célèbre cette année ses 40 ans et bat son plein depuis mardi dernier et se poursuit jusque dimanche. Alors hier soir, nous avons assisté à la représentation du spectacle La Conjuration de Balkis par la compagnie Peppermint, un spectacle aussi poétique et dansant que décalé. À l'issue de cette représentation, j'ai rencontré l'une des interprètes, Elsa Dorlin, ainsi qu'Amanda Oma, qui en a assuré la dramaturgie. Avec elle, nous reviendrons sur la création de ce spectacle et sur l'esprit d'un festival qui, depuis 4 décennies maintenant, fait de Vahour une terre de théâtre et de création. D'ici là, Hit Me In The Head, les Rolling Stones, dernière de notre
FM Cordes. Trois lettres, un esprit, le rock.
Et on prend la direction maintenant de l'Antre du Dragon, un nouveau lieu dédié à l'art et à l'artisanat qui a ouvert à Cordes-sur-Ciel là et qui se trouve au numéro 20 de la Grand Rue Raymond 7 et un lieu qui accueille là jusqu'à la fin de mois une exposition qui rend hommage à une figure qui a profondément marqué la vie à la fois artistique et culturelle de la cité médiévale. C'est monsieur Jean-Gabriel Jaunin, un peintre inspiré par l'univers de Salvador Dali, un artiste qu'on dit d'être de la transparence France et de l'imaginaire, mais aussi ancien adjoint à la culture de Cordes-sur-Ciel. Cette exposition est organisée par son fils Raphaël Jonin, qui est avec nous sur CFM Radio. Bonjour Raphaël.
Bonjour Jack.
Alors on imagine l'émotion quand même d'organiser comme ça une exposition un peu rétrospective sur les œuvres de son père. C'est jusqu'au 30 août là donc que tu nous donnes rendez-vous pour une sélection de quelques toiles de Jean-Gabriel Jonin. Comment tu présenterais déjà le choix des œuvres que tu as donc sélectionnées ?
Alors écoute, là c'est une petite exposition dans une petite salle qu'on m'a proposée. C'est Isabelle Décoré qui m'a proposé ça. Très gentiment, j'ai sauté sur l'occasion pour raviver un peu la mémoire de mon père qui a quand même pas mal œuvré pour Cordes. Et écoute, j'ai sélectionné une grosse dizaine d'œuvres de sa dernière période de peinture qu'il avait commencé en quittant Cordes et pour finir dans l'Allier, où il est retourné après ses fonctions cordaises. Donc, c'est des œuvres de dernière période où il était, un peu omnubilé par une fleur dans laquelle il voyait des choses de son monde. C'était l'œillette, voilà, la fleur de pavot, rien à voir avec l'opium qu'on peut extraire de cette fleur, mais c'était plutôt par rapport à la forme de cette fleur qui lui évoquait beaucoup de choses.
Ouais, les symétries, des choses comme ça.
Les corolles, le pistil, tout ça, il voyait. C'était son univers, tu sais. Mon père, il y avait beaucoup de symbolisme et de choses comme ça, quoi.
Ouais.
Dans ce qu'il peignait. Donc voilà, c'est pas un hommage. C'est juste une petite exposition qui ravive son nom au sein de Cordes. Voilà, c'était l'occasion d'exposer quelques œuvres parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Enfin, il nous en reste avec ma sœur pas mal. Donc, si on a l'occasion de pouvoir exposer ses œuvres, on est content. Voilà.
Et ouais. Puis,
je pense que c'est bien parce que j'ai eu des cordais qui m'ont tout de suite appelé en me disant « Oh, c'est super ce que tu fais, c'est génial, on va venir. » Voilà, donc c'est bien, ça satisfait d'avoir une reconnaissance encore.
Ouais. Ben Jean-Gabriel Jonin était connu non seulement comme artiste, mais aussi, on l'a dit, comme un acteur culturel important dans la cité, culturelle et historique, parce qu'il s'est aussi beaucoup intéressé à l'histoire de cette cité médiévale.
Oui, il a écrit quand même deux livres, enfin une trilogie, mais surtout deux livres sur l'historique et la philosophie de Cordes, Cordes ou les Chines du Dragon, la cité cathare et la cité philosophale, et un dernier qui était la cité artistique où il avait recensé tous les artistes de Cordes, Cordeil environ. Je ne sais plus combien il y en a, mais le livre est quand même assez imposant. D'ailleurs, je le mets à disposition à l'exposition Libre Service sur ce livre. Ben, il m'en reste des quantités, donc c'est aussi bien que les gens en profitent. Au lieu de mettre ça à la déchetterie, ça n'a pas lieu d'être sur les livres. Donc voilà, c'est ne serait-ce que pour avoir un livre de mon père sur la cité artistique et revoir ou connaître tous les artistes qui ont pu passer et vivre à Cordes. Il y en a encore qui sont dans le livre et qui sont encore présents aujourd'hui. Donc c'est un livre qui est plus d'actualité, mais qui est quand même très intéressant justement à propos de tous ces artistes qui ont rayonné sur Cordes et autour de Cordes.
Dans la vie de Jean-Gabriel Jonin, il y a aussi cette rencontre avec Salvador Dali, qui était déjà un immense artiste, une rencontre qui transparaît peut-être dans son travail de peintre. Mais moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il t'a raconté à l'époque de cette rencontre et amitié avec Dali ?
Alors écoute, la relation avec Dali, moi je l'ai vécue avec ma sœur pendant toute mon enfance, parce qu'on allait tous les étés à Porliga, à côté de Cadaqués, là où vivait Dali. Dali n'aimant pas les enfants, on était interdit d'aller chez lui. Donc on restait à l'hôtel où il y avait une piscine et puis on s'évadait dans les alentours de Porliga. Et mes parents passaient leurs après-midi entières chez Dali. Moi, j'ai appris ce qui se passait, enfin la relation qu'ils avaient avec Dali, j'ai appris ça dans son livre qu'il a écrit sur Dali, je ne sais plus en quelle année, 2007-2008, qui s'appelle « Jour intime chez Dali ». Et c'est super intéressant. Alors, ce livre est épuisé, hein, il est sorti aux éditions Raphaël de Surtis à l'époque. Et on est en passe de le rééditer, peut-être sous une autre forme, on va voir. Je sais que Paul m'a demandé l'autorisation de ressortir quelques-uns aussi, peut-être dans la fin de l'année ou l'année prochaine. Avec ma sœur, on va le rééditer aussi, donc, parce que c'est un livre vraiment intéressant. Je ne vais pas dévoiler les relations intimes qu'ils ont eues avec Dali, je laisse vraiment les futurs lecteurs à le découvrir, c'est très intéressant. Quoi dire, alors que simplement mon père, de toute façon, a toujours été fasciné par l'œuvre de Dali. Ça l'a vraiment, comment dire, marqué et confirmé dans le sens à devenir artiste peintre, ça c'est sûr. Quoi dire, moi j'ai un souvenir de l'Espagne extraordinaire, même sans avoir... J'ai rencontré Dali, je devais avoir 15 ans, j'étais plus enfant.
Plus enfant, donc
j'ai eu l'autorisation de le rencontrer, Gala était encore vivante aussi, donc ils étaient tous les deux là en face. C'était assez impressionnant de voir cette figure qu'on voyait à la télé quand on était gamin, qui parlait de chocolat à l'envin, je suis fou du chocolat à l'envin, de voir quelqu'un d'aussi connu mondialement et d'avoir ce vieil homme bedonnant devant moi, je suis une espèce de pas de mythe, parce que mais en tout cas d'image qui se casse la gueule d'un coup, quoi. je peux pas en dire tant que ça, parce que j'ai pas vraiment vécu les choses.
Mais il a forcément influencé le travail artistique de ton père, et c'est aussi ce que l'on peut voir, même si c'est la série d'œuvres que tu nous donnes à voir là jusqu'au 30 août nous montre plutôt la fin de sa période artistique, quoi.
Ouais, exactement. Alors pour l'occasion, j'ai fait, c'est surtout mes filles qui ont fait, j'alimente avec des anecdotes, mais ou des images, un Instagram. Je connais rien à ce genre de réseau, elle se charge de ça, d'alimenter l'Instagram. Il y a des photos, des petits réels, paraît-il, on appelle ça des jeux. Bon, enfin voilà. Donc, il y a un Instagram Jean-Gabriel Jaunin qui peut être qu'on alimente. On l'a ouvert il y a quelques mois. On l'alimente régulièrement. Ça peut être intéressant, peut-être dans le but de faire une exposition plus importante d'ici quelques années sur. Peut-être une rétrospective plus globale, conséquente, ouais. On verra ça. On essaye de maintenir cette mémoire, voilà, parce que il a fait quand même beaucoup beaucoup au niveau artistique sur corde.
Et on peut aller visiter cette exposition librement jusqu'au 30 août à l'antre du Dragon. Le vernissage, c'est demain à 18h30.
Demain, vernissage à 18h30. Voilà, tout le monde est bienvenu pour voir un petit verre et puis profiter de ces toiles.
L'antre du Dragon au numéro 20 de la Grand Rue Raymond 7 à Cordes-sur-Ciel. Merci beaucoup, Raphaël Jaunin, d'avoir été avec nous. Très bon week-end à toi.
Merci, Jack, et à très vite. On the eyes.
La suite du magazine, on prend la direction de Vahour maintenant, où le festival d'été de Vahour bat son plein avec du théâtre, du cirque, de la musique aussi et tout ce qu'il faut pour passer un bon moment de convivialité. Si vous êtes en visite dans notre département, n'hésitez pas à faire un tour dans ce village de Vahour où tout le village est vraiment concentré, focalisé sur ce festival qui a 40 ans aujourd'hui. Et hier soir, la conjuration de Balkis se jouait dans la cour de l'école et à l'issue de la représentation, Amanda Oma et Elsa Dorlin ont répondu à quelques questions.
CFM Corde, le mag.
En compagnie d'Elsa et d'Amanda pour parler de ce projet, la conjuration de Balkis par la compagnie Peu Permite. Alors là, on vient d'assister à une représentation à l'été de Vahour pour la 40e édition de l'été de Vahour. Ce n'est pas la première date de ce projet qui a déjà commencé à jouer à différents endroits en Occitanie. Mais déjà, on va expliquer qu'est-ce que c'est la compagnie Peu Permite et quel est son propos, son objet. Parce qu'il y a, je crois, aussi une histoire autour d'un acronyme MINT, là, ça veut dire quelque chose. Alors je vous pose une colle là comme ça là tout de suite. Elsa s'éloigne et Amanda reste à côté de moi. Salut Amanda.
Salut, merci pour cette question. Alors je suis pas certaine que je suis la meilleure personne pour répondre, mais je m'élance. Mmh. Et alors Peppermint, c'est une compagnie qui a été créée il y a 4 ans. Mmh. 4 ans et qui a déjà fait d'autres projets. Et ce projet-là, ça fait 2 ans qu'elles ont démarré ce projet, que nous avons démarré ce projet. Et Peppermint, c'est quoi le projet? Entre autres, c'est un projet de territoire, et de danse, un endroit pour se retrouver, pour s'entraîner ensemble, pour créer du lien. Et aussi dans nos territoires et entre personnes qui luttent ensemble, on peut dire ça. Voilà. Et MINT, alors Peppermint. MINT, c'est un acronyme pour meuf, intersexe, non-binaire, trans. Donc c'est un groupe qui réunit des personnes qui s'identifient à tout ça. Et c'était aussi le projet de donner un espace où ces personnes-là peuvent se retrouver pour s'entraîner ensemble, faire des choses ensemble et pratiquer différentes choses physiques et intellectuelles ensemble.
Elsa, Amanda nous a parlé de lutte. Il me semble que c'est un mot qui est quand même important dans ce projet-là. On est dans une lutte joyeuse, une lutte aussi qui s'affirme en quelque sorte avec la conjuration de Balkis et aussi avec les projets qui sont défendus par la compagnie Peppermint.
Ben oui, puisque là, les styles et les cultures chorégraphiques qu'on joue et sont toutes liées au hip-hop et aux cultures afrodescendantes, africaines, américaines, et qui sont des cultures de lutte. Et donc, de les traverser à travers l'apprentissage de la danse, de la chorégraphie, de l'histoire, de la conscience aussi politique, historique... grâce à Amanda en particulier, parce que ça fait que il n'y a pas, par exemple, de pratique de danse où on serait inconsciente ou dans l'oubli de ce que l'on porte aussi comme histoire et ce qui nous traverse. Et donc l'objectif, c'était aussi de danser. On est toutes amatrices, amateurs. Mais de danser avec une conscience et une forme de gratitude envers cette histoire, ces cultures qui, pour une part aussi, nous traversent et sont les nôtres, et pour d'autre part, non, mais qu'on mixe ensemble, dans une volonté de prendre l'espace public avec nos corps, nos âges, nos histoires, nos classes sociales, nos galères de territoire ou pas, et traverse de façon centrale du coup la question du colonialisme, du racisme, et comment depuis nous, nos histoires très différentes, on peut amener dans nos corps à la fois la joie et une forme, oui, de conscience, enfin de réveil, quoi, en quelque sorte.
Et il y a beaucoup de joie, franchement, pour avoir assisté à cette représentation. Il y a vraiment beaucoup de joie qui est partagée dans les travées du public. À la fin, tout le monde a envie de bouger, a envie de communier avec vous en joie, mais quand même en étant conscient de certaines choses, parce que en lisant, on va dire, le descriptif du spectacle, il y a un terme comme ça que moi j'ai appris, que je ne connaissais pas, et c'est Amanda qui va m'en parler. Il est question de blanchité. Qu'est-ce que c'est la blanchité déjà, Amanda ?
Alors, merci. Alors, la blanchité, c'est, je ne vais pas donner une définition unique comme ça à sortir de dictionnaire, hein, il ne faut pas le prendre comme ça, mais la blanchité telle qu'on l'aborde là, c'est un système de pensée. Un système de pensée qui rend certaines choses invisibles et qui crée une certaine norme. Donc, si on raconte une histoire d'une petite fille qui s'appelle Julie, qui a trop envie de danser de la danse classique et qui, en fait, passe des heures dans sa chambre à s'entraîner, on imagine forcément une personne blanche. Et on va juste imaginer que ce n'est pas une personne blanche si je donne d'autres indices liés au quartier d'où elle vient, du travail de ses parents, etc. Et du coup, voilà, ça c'est le mécanisme qui fait que qui appartient à ce système de pensée, qu'est la blanchité, qui fait que la norme, ben, c'est là, elle est blanche. Et du coup, nous, on essaie de s'attaquer à ça pour dire pourquoi, en fait. Et il y a une raison pourquoi. Une histoire assez horrible, et du coup, de se confronter à ça, de la questionner, et de détruire ces normes-là, ces évidences à l'intérieur de soi qui fait qu'on perpétue des comportements qui rendent la norme toujours invisible, toujours. Et du coup, si elle est invisible, elle est inquestionnable, elle est immodifiable. Et donc, on essaie de, voilà, de ça. Et la blancheté, ça serait ça, ce système de pensée qui fait que...
Toi, tu as travaillé sur la dramaturgie de ce projet-là. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça dès le premier jour où tu as rencontré le groupe? Aujourd'hui, vous avez déjà quoi, 4-5 dates, je crois, derrière qui ont été déjà jouées, non?
8-9.
Bon, c'est le double de 4-5, quoi, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Amanda, de ce projet en tant que regard extérieur aussi de dramaturge?
Pour moi, c'est une expérience aussi assez expérimentale. Je pense que faire la dramaturgie de cette manière-là, c'est vraiment aussi une tentative politique importante pour moi en tant qu'artiste, qui n'est pas la manière dont l'art et le spectacle vivant se prend toujours pour penser la dramaturgie, pour penser un regard extérieur. Et là, c'était notre tentative, puisque c'est notre vision, et partagée déjà avec Malika et puis avec plusieurs personnes dans le projet. Et donc c'est, pour moi, c'est un espèce de laboratoire hyper vivant, en fait. Je suis avec elle depuis 3 ans, et pendant 3 ans, on a fait du chemin, quoi. Et à la fois, ouais, c'est ça, tout ce que je propose, c'est complètement expérimental. En fait, j'ai pas de recette, j'ai pas de carnet, j'ai pas fait des études qui m'y montrent comment faire ça. Et du coup, c'est dans le croisement entre tout ça, et surtout depuis un endroit très politique.
Superbe passe pour qu'Elsa nous dise le dernier mot avec ce mot politique. Parce que très souvent, quand je discute avec toi à la radio pour parler de féminisme ou parler de lutte, le mot politique est important aussi là-dessus. Donc ça aussi, c'est politique, puisque c'est la chose de, sur l'espace public, on en a parlé, et d'une affirmation aussi. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour celles et ceux qui nous écoutent là, de la conjuration de Balkis, pourquoi l'intention et l'envie de ce projet à terme?
Ben là, la conjuration de Balkis, c'est Monique Wittig, donc qui est une icône queer, féministe en France, mais voilà, qui a été entre les deux rives de l'Atlantique, qui est vraiment une figure très importante, intellectuelle, politique aux États-Unis, en France, queer, lesbienne, radicale, matérialiste. Et le groupe, il est traversé par ça, par les luttes queer. Contre l'hétéropatriarcat, et il rencontre le hip-hop qui pose de façon centrale la question de la race, c'est-à-dire du racisme systémique sur un territoire qui n'avait pas vocation peut-être, en tout cas c'est, d'emblée on voit plutôt ça dans un contexte très urbain, par exemple périurbain, une création ça sort plutôt ce type de création elle sort de là, et en même temps non, ces trois éléments, on en parlait beaucoup aussi avec Malika, avec Amanda, ces trois piliers en fait qui font que c'est en soi politique, parce que c'est déjà rien que d'aller sur scène avec nos corps, nos histoires, nos combats, nos résistances, et d'aller incarner toute oui, tout ce qui est considéré comme de la sous-culture et pour le voilà pour se lever, pour se soulever, bah, c'est déjà énorme. Et après, c'est vrai que maintenant, enfin, faut pas venir nous chercher, quoi. C'est un peu ça l'idée.
Si vous aimez les spectacles qui bousculent les codes, qui font rire, réfléchir et voyager, alors prenez la route de Vahour où a lieu la 40e édition de l'été de Vahour. Et c'est jusque dimanche, du théâtre, du cirque, de la musique et de nombreuses propositions artistiques dans une ambiance toujours aussi conviviale. 40 ans après sa création, l'été de Vahour continue de faire le pari de la curiosité, de la rencontre et de la création. Un bel anniversaire à vivre tout simplement ici au cœur du Tarn. C'est tout pour le magazine du Tarn de CFM Radio. Moi, je file par faire mon bronzage jusqu'à la fin de ce mois. Passez un très bel été et on se retrouve sur CFM Radio début septembre. C'était Jacques. Très bonne journée et très bon week-end à vous. Ages.